Et on s'informe dans le journal ce soir avec vous, Olivier Zano. Bonsoir.
Bonsoir. Les eaux du lac de Bienne se sont stabilisées aujourd'hui. Il faudra du temps pour retrouver le niveau normal. En attendant, les travaux de déblaiement se poursuivent sur et autour du lac. On vous en parle en ouverture de ce journal. Les intempéries ont fait des dégâts aussi sur les arbres fruitiers. La récolte s'annonce médiocre cette année. Reportage à suivre dans les vergers de la Fondation Rurale Interjurassienne à Lovresse. Merci aux vaccinés, c'est le message délivré devant le Palais fédéral aujourd'hui par l'Office fédéral de la santé publique. Une opération de communication qu'on vous décrypte alors que les tensions sont toujours vives entre pro et anti-vaccins. L'été, enfin, du soleil, de la chaleur. Le programme reste le même pour demain avec quelques nuages bas possibles toutefois, mais le temps va rester sec et agréablement chaud avec des valeurs comprises entre 24 et 27 degrés. Après une forte décrue ce week-end, les eaux du lac de Bienne stagnent. Le lac de Neuchâtel l'a dépassé et l'eau reflue désormais du premier vers le second. Le niveau du lac de Bienne devrait rester constant aujourd'hui et demain, il pourrait redescendre en dessous de son niveau de crue en fin de semaine. Le retour à un niveau normal pourrait prendre jusqu'à 3 semaines selon les spécialistes. En attendant, la police des lacs et l'office des eaux et des déchets continuent le repêchage de bois flottant. Clotilde Loup, le but est d'éviter une accumulation de devant les installations et d'autres perturbations.
En effet, et l'objectif est atteint pour le moment. En 2 semaines, 4000 m3 ont été évacués des barrages de collecte, dont près des 3/4 sur le lac de Thoune. Le bois repêché est acheminé vers des installations de valorisation comme les chauffages à distance. Sur le lac de Bienne, le volume évacué est de 1000 m3. La hauteur des vagues et la force des courants ont rendu temporairement impossibles les opérations de repêchage. Plusieurs organismes s'activent pour évacuer le bois. Les équipes du service cantonal d'entretien de la correction des eaux du Jura participent à l'évacuation avec leurs propres bateaux. La police des lacs a mobilisé tous ses effectifs disponibles pour l'enlèvement des gros volumes de bois. Dans le port, l'évacuation du bois est faite par les exploitants et pour les bois flottants échoués sur les rives, il doit être repêché et éliminé par les propriétaires ou les titulaires des superficies concernées. La protection civile participe aussi aux travaux de déblaiement. 12 organisations ont déployé près de 200 membres sur l'ensemble du canton. Leur mission principale est de prendre le relais des services du feu et de déblayer les débris. Leur engagement est indéterminé parce qu'il faut attendre que l'eau ait reflué pour pouvoir procéder aux travaux de déblaiement.
Merci Clotilde. Et sur le terrain, les différents organes de conduite régionaux et leurs états-majors spécialisés continuent de se coordonner pour limiter au mieux les dégâts. Et puisqu'on en parle, l'organe de conduite de Bienne a communiqué d'importantes informations cet après-midi. Patience, si vous voulez pomper l'eau qui stagne dans vos caves, la situation ne le permet pas pour le moment. Et dans certains cas, il vaut mieux laisser les locaux inondés pour éviter des dégâts parfois plus importants. Une question de pression sur les murs et les sols. La navigation reste aussi interdite et les baignades fortement déconseillées malgré la chaleur qui revient. Vous l'avez compris, il y a des débris dans le lac. Il peut aussi y avoir de l'essence, du mazout et même des matières fécales. Encore une fois, patience donc. Par contre, la situation le long de la Suze s'est détendue, c'est pourquoi les gorges du Taubenlohr seront rouvertes demain matin à 8h. Les gorges de Douane sont aussi accessibles. Regarder dans le rétroviseur, c'est souvent l'occasion de relativiser. La situation de 2021 reste bien meilleure qu'avant la correction des eaux du Jura. C'est ce qui ressort du discours de Werner Könitzer, président de l'association du château de Nidau, une institution qui a consacré une exposition à ce thème. Il faut rappeler qu'avec la situation géographique du lac de Bienne, 25% de l'eau en Suisse passe par ce lac, par un phénomène d'entonnoir. Et les travaux de correction entrepris par le passé ont déjà beaucoup aidé, comme l'explique Werner Könitzer.
Avant, c'était encore beaucoup, beaucoup plus pire pour la population ici dans le pays des Trois Lacs. Là, on avait eu régulièrement, chaque année, des immenses inondations. Et avec ce système, on peut assurer maintenant, sur un tiers de la surface de la Suisse, qu'il n'y a plus d'inondations catastrophiques. De Yverdon jusqu'à Canton Argovie. Il faut toujours réfléchir qu'est-ce qui était avant et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Avec ce système, on ne peut pas éviter toutes les inondations. Ça, c'est impossible. Mais c'est plus la catastrophe comme c'était avant la correction des eaux du Jura.
Werner Könitzer ajoute que ces travaux de correction doivent être adaptés en tout temps. Il rappelle aussi qu'il sera toujours impossible de prévoir de manière sûre ce que la nature nous réserve. C'est une autre conséquence des intempéries des dernières semaines. La Fédération des sociétés d'arboriculture du Jura bernois fait la moue. Les récoltes de fruits s'annoncent mauvaises cette année en raison de la météo maussade et de l'été qui a du mal à démarrer. À l'Ovresse, c'est Raymond Maire, arboriculteur qui s'occupe des dizaines de pommiers, poiriers et autres arbres. Il y teste de nouvelles variétés de fruits et y reçoit des jeunes pour leur faire découvrir sa passion. Mais cette année, il n'y a pas grand-chose à leur montrer.
Ici, il y avait peut-être 50 pommes. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en compte? On en compte 1, 2, 3. Il en reste 5, 10%. Quoi. Et puis si vous regardez les feuilles, elles sont massacrées par la grêle. Ça fait des gros trous, qu'on peut dire, d'un centimètre de diamètre. Quoi. Voilà, puis les jeunes poussent, ben, vous voyez, ça ne pousse pas fort. Hein. La végétation, elle végète, elle n'avance pas. Quoi.
La saison, elle était quand même bien partie à la base.
On a toujours le problème des gelées tardives. Et puis cette année, donc, on a eu énormément de gelées. La dernière gelée qu'on a eue, c'est le 28 mai.
Et là, la pluie qui tombe sans discontinuer depuis des jours et des jours, c'est aussi mauvais, en plus de la grêle, en plus des gelées tardives.
S'il n'y a pas de température, ça ne pousse pas beaucoup. Hein. Faut toujours de l'eau, de la température et puis du soleil. Quoi. Ça, c'est du Reika, donc c'est une excellente pomme, c'est une pomme mi-précoce. Et puis, on voit comme quelques fruits, et puis déjà, d'un bon diamètre. Mais malheureusement, il y a massacré ici, vous pouvez voir. À la radio, on ne voit pas, mais... Ça, c'est une pomme qui a 5 cm de diamètre et puis il y a une dizaine de trous de 3 mm qui viennent tout brun. Quoi. Je vous demande de manger des pommes comme ça, je ne sais pas, moi, à mon avis, personne ne les voudra. Quoi.
Ces fruits qui restent là, ils pourront quand même pousser?
Ils vont grandir, oui. Mais les déformations qu'ils ont, ça ne change plus.
Il y a déjà eu une année aussi triste au niveau des fruits?
Là, en 2018, c'était une année vraiment excellente. Là, en 2018, on a fait 2500... litre de jus de pomme.
Et cette année, vous tablez sur combien?
S'il y en a 200 litres de jus de pomme, ça va être déjà bien. Donc, il faudra se contenter de ce qu'on a.
Raymond Maire répondait à Caroline Toussaint. Le verger de l'Ovresse est principalement un lieu de démonstration où se déroulent des cours d'arboriculture. Le Festival international d'échecs fidèle au poste à Bienne. La manifestation est désormais la plus ancienne de son genre à n'avoir manqué aucune édition. Et pour la 54e année consécutive, les fans d'échecs de tous niveaux s'affronteront. Ce sera du 24 juillet au 4 août au Palais des Congrès. Les organisateurs ont fait ce lundi un dernier point avant le lancement du festival. Au programme cette année, un tournoi des grands maîtres sous forme de triathlon, un tournoi des maîtres et différentes parties amateurs, le tout en présentiel. C'était donc un sacré coup à jouer pour le directeur général de l'événement, Paul Koller.
Malheureusement, comme l'année passée, le principe c'est qu'il n'y a pas de spectateurs. On est sous le mode des 250 personnes maximales, événement sans certificat, mais du coup avec nécessité de traçage. Donc moi je contrôle qu'on ne dépasse jamais les 250 en fournissant un badge à toute personne qui pénètre au Palais des Congrès. Donc évidemment d'abord les joueurs, le staff, les accompagnants des juniors, les journalistes, et si j'ai du rab, je peux voir si je peux laisser entrer exceptionnellement une deux personnes, elle me donne le jour et quel temps elle vient. On peut s'organiser comme ça, mais le principe de base, c'est les spectateurs ne peuvent pas entrer et de toute façon, on ne rentre pas sans badge.
Avec cette possibilité quand même de suivre les matchs, la compétition à distance, ce dispositif, il ressemblera à quoi?
Le tournoi des grands maîtres, comme à son habitude, il sera en direct et commenté sur notre chaîne YouTube. Mais du coup, là, on a investi, on faisait déjà pour le tournoi des maîtres, il y avait déjà les premiers échiquiers qui étaient visibles sur Internet. On pouvait suivre les parties sans commentaire, mais on pouvait suivre en direct ce qui se passe. Et là, on a investi, ça sera toutes les parties du tournoi des maîtres qui seront visibles sur Internet, ainsi que les meilleures parties des amateurs.
Paul Koller qui répondait à Vincent Jacquat. Et le tournoi des maîtres se jouera donc en 3 manches de différentes cadences, classique, rapide et blitz. Seront notamment présents le champion de France 2019, Maxime Lagarde, et le légendaire ancien vice-champion du monde, l'américain Gata Gamski. Du côté des régionaux, le bernois Noël Studer portera les couleurs du festival, lui qui cumule tout de même 2580 points au classement Elo. Le CIP, Centre interrégional de perfectionnement à Tramelan, finit 2020 dans les chiffres noirs. Il boucle sur un bénéfice de presque 91 000 francs, c'est environ 10 000 de plus que l'année précédente. Didier Juira, directeur du CIP, nous explique comment cette situation a pu être possible en année de pandémie.
Alors déjà, on l'explique parce que le CIP est, je dirais, subventionné par le canton d'une certaine manière, puisqu'on a un contrat de prestation avec le canton. Cela nous permet quand même d'assurer une grande partie des coûts fixes. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'on a beaucoup moins de prestations que ce qu'on aurait pu faire. Donc, tout ce qui était des cours, notamment des petits cours, tout ce qui est de la culture, n'a pas pu avoir lieu. Donc, c'est des prestations qui n'ont pas pu avoir lieu, donc qui ne nous ont pas coûté grand-chose. Donc, ça, c'est une première explication. L'autre explication, c'est que dès le début de la pandémie, on a dû mettre l'ensemble de l'institution en RHT. Et donc, ça nous a aussi remboursé une partie des salaires. Donc, ce qui fait qu'on a pu arriver sur un résultat qui est comme ça. Mais quand même, je dirais que le problème qu'on a eu, c'est qu'effectivement, une grande partie des activités ont dû être stoppées. Donc, c'est malheureusement, vu qu'on est à but non lucratif de toute façon, le principe, c'est que, en fait, quelque part, moins on fait, plus ça rapporte. C'est terrible.
Et retrouvez l'entretien complet de Didier Juira sur notre site rjb.ch. C'est un beau gros gâteau qui a fait l'actualité ce lundi estival à Berne sur la place fédérale. Un gâteau servi aux passants par l'Office fédéral de la santé publique et ses spécialistes du Covid, Virginie Masseret et Patrick Matisse. Un gâteau incomplet en forme de croissant de lune pour célébrer 63% d'adultes vaccinés en Suisse. Et juste derrière, un camion pour des vaccinations spontanées et sans rendez-vous. Mais quel sens donner à cette opération de communication? Le ministre bernois de la santé publique, Pierre Anachnek.
L'objectif, c'est de remercier toute la population qui a accepté de se faire vacciner. Jusqu'à aujourd'hui, c'est quasiment 2/3 de la population vaccinable qui a reçu une première dose. C'est un grand succès pour cette campagne, mais il faut continuer. Le taux n'est encore pas suffisant pour garantir cette immunité de groupe.
Le gâteau, dessiné aux 2/3 comme un croissant de lune, comment il faudra faire pour convaincre les autres à aller se faire vacciner?
C'est ce que nous faisons ici avec le camion de vaccination, c'est-à-dire que les gens n'ont pas besoin d'aller dans un centre de vaccination, le camion vient à eux, sans avoir besoin d'être enregistré au préalable, sans avoir besoin de prendre de rendez-vous. Nous essayons d'éliminer le plus de barrières possibles, de manière à ce que la vaccination soit aussi le plus simple possible pour la population.
Il reste donc un gros tiers des adultes qui n'est pas vacciné. Le débat entre partisans de la vaccination et sceptiques prend parfois des tournures conflictuelles jusque dans les familles et les cercles d'amis. Alors comment convaincre sans contraindre? Virginie Masseret de l'OFSP.
Je crois qu'il faut être ouvert à la discussion, il faut être ouvert à écouter les arguments de ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, je crois qu'il faut les respecter, mais surtout il faut quand même répéter les faits, hein. Le fait que ce vaccin est très efficace, qu'il est très bien toléré, c'est une bonne façon de s'immuniser sans les risques que comporte la maladie, il y a beaucoup moins de risques de complications avec le vaccin qu'avec la maladie, même si les risques de la maladie sont très rares, hein. C'est quand même plus grave avec la maladie qu'avec le vaccin.
Et le virus, lui, continue de circuler. 1560 infections supplémentaires ont été comptabilisées en Suisse ces 3 derniers jours. C'est le double du chiffre de lundi dernier.
Elle écoute d'RJB, il est 18h13.
Sport. Le roi Tadej Pogacar, le prince Wout van Aert. Si le Slovène a remporté hier son 2e Tour de France, le 2e consécutif, le Belge a aussi brillé sur les routes de l'Hexagone. Le cycliste de la Jumbo-Visma a signé une performance rare sur cette 108e édition. Wout van Aert a remporté une étape de montagne, un contre-la-montre et un sprint massif. Notre consultant cyclisme, Christophe Moreau.
On est aussi ébloui dans un autre contexte, un autre domaine, bien évidemment par rapport à Pogacar, qui donne la prime à la jeunesse. Là, c'est un solide compétiteur, un solide athlète qui vient du milieu du cyclocross. Tout le monde le sait, il est champion du monde, multiple champion du monde depuis les années junior, espoir et évidemment senior. Il est venu à la route comme son concurrent Mathieu Van Der Poel. Il a touché la route depuis quelques années et d'année en année, il progresse. On l'a vu l'année dernière sur le Tour de France gagner des sprints. On s'est dit, OK, il va vite au sprint. Il gagne un contre-la-montre, OK, il va vite en contre-la-montre. Et puis maintenant, dans le Ventoux, il est capable de s'extirper sur une échappée au long cours. Et je crois qu'on peut rassembler ces 3 étapes qu'il a gagnées, qui sont complètement différentes, contre la montagne et sprint massif. On doit remonter aux années Merckx, avec le grand Eddy Merckx qui avait égalé sur ces 3 domaines différents, sur un Tour de France ou sur en tout cas une course de 3 semaines, une performance de ce ressort. Donc c'est vrai que Wout van Aert, je pense qu'il ne sait même pas où il peut s'arrêter aujourd'hui en gagnant encore sur les Champs-Élysées sur la dernière étape.
Vous êtes à l'écoute d'RJB, merci de votre fidélité, je vous souhaite une excellente soirée.
Et puis tiens, on va poursuivre avec de la musique à Julien Doré, notamment après un petit peu de météo. Et justement, cette météo qui est pour ce soir et cette nuit calme, dans un ciel à dégager, sous des températures un peu en baisse et avec une bise en perte de vitesse. On ne va pas être mécontent de ceci. Pour demain, les experts de Météo News nous prévoient un temps bien ensoleillé sur l'ensemble de la région, avec quelques nuages bas par endroits en début de matinée et d'autres développements de cumulus sur le Jura, notamment au fil des heures. Mais on va rester au sec. Notez que les températures demain seront comprises entre 11 et 15 degrés le matin. L'après-midi, on attend entre 24 et 27.